est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
La crise est dans la tête, elle est dans la tête des Français sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Ce phénomène d'angoisse, de rejet, d'inquiétude avait commencé bien avant. Mais on s'aperçoit que depuis le choc de la crise économique et financière, les angoisses, les inquiétudes, le sentiment du repli augmentent.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'oreille très fine pour entendre s'exprimer bruyamment depuis 10 ou 15 ans cette récidive de notre démocratie, la hantise de la décadence de la France parmi les nations. Analyse chagrine, déploration obsessionnelle, prédictions catastrophiques n'ont pas cessé de faire floresse parmi divers secteurs de la vie intellectuelle. Ces douleurs affichées se nourrissent de l'épuisement de l'espoir dans un monde meilleur, d'une angoisse devant les effets d'une évolution des sciences et des techniques échappant à toute maîtrise, de la conviction d'un déclin de la civilisation occidentale, d'une impuissance ressentie à transmettre par l'éducation l'héritage de valeurs lentement forgées dans le passé. Eh bien, sans qu'on prétende nier les intenses préoccupations que peuvent faire naître les mutations au travail sur la planète et dans notre pays en particulier, on éprouve souvent le goût pour raison garder, pour sauvegarder l'optimisme de l'énergie, pour s'assurer que le pire n'est pas certain, de se reporter à d'autres moments où prospèrent semblablement des pessimismes qui apparaissent avec le recul, largement exagérés et pour beaucoup démentis. Une belle occasion m'en est fournie par le livre que Michel Vinocq consacre aux années qui courent de 1880 à 1900 sous le titre « Fort parlant » de décadence fin de siècle. Il s'agit d'un temps où la Troisième République, fondant son assise neuve sur l'espoir d'un progrès politique, scientifique, économique et culturel, vit simultanément proliférer parmi les écrivains et parmi les publicistes un climat marqué par les formes multiples d'une désespérance. Michel Vinocq est devant moi, haut les cœurs.
La radiodiffusion française présente une émission d'Emmanuel Bondeville, Vérités et chimères, une fin de siècle 1890-1900, première émission. L'état d'esprit fin de siècle par M. Jules Romain de l'Académie française.
La poussée du pessimisme comme doctrine et style de sensibilité, elle remontait loin. Le pessimisme moderne avait ses racines dans le romantisme lui-même. Schopenhauer avait publié ses grands livres bien avant 1850. La musique de Wagner, la poésie baudelairienne étaient choses du milieu du siècle. Mais il est bien vrai que Schopenhauer, Wagner, Baudelaire et quelques autres ne devenaient à la mode qu'à partir de 80. Ils contribuaient ainsi à persuader les gens de se complaire dans les idées de chute, de renoncement, de désespoir raffiné, d'appétit délicat pour la mort, la douleur, le mal, le vice, dans les couleurs de décomposition et d'extrême automne qui semblaient convenir à une fin de siècle.
Michel Vinocq, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, des souvenirs de Jules Romain, l'auteur des Hommes de bonne volonté, de Knock aussi, des souvenirs de Jules Romain qui remontent au 26 novembre 1949, comme le ton d'ailleurs de la radio de l'époque nous l'indique assez. Nous sommes déjà dans une période où sont confrontés, c'est le début des Trente Glorieuses, un espoir dans les progrès de la technique, dans un mieux-être, et en même temps l'angoisse nucléaire. Ce qui peut renvoyer déjà à cette fin de siècle à quoi nous allons nous consacrer ce matin.
Jules Romain, cela me fait penser à un autre Romain, c'est Romain Rolland, qui tenait son journal à la fin du XIXe siècle, et il écrivait en 1893, Il est des époques qui portent la mort au fond de toutes leurs pensées, dans le noyau de leur cœur. La nôtre est telle. Elle n'a pas foi en sa vie. Elle a raison. Elle périra. Et le même Romain Rolland, 50 ans plus tard, en se relisant, s'aperçoit que c'était un fantasme. Et que s'il avait été tout de même un peu plus observateur des réalités de son temps, il se serait aperçu des grandeurs, justement, de la fin du XIXe siècle. Il cite, par exemple, mais c'est important, les travaux de Pasteur, entre autres, les progrès considérables donc dans la science médicale, et bien d'autres choses encore. Il cite les peintres, il cite les musiciens, bref.
C'est le temps des grandes expositions universelles de 1889 et de 1900. On progresse à la fois dans l'art de tuer et dans l'art de guérir.
Exactement. Mais voyez-vous, je crois que il faut comprendre ce décalage-là qui existe entre des réalités positives. Par exemple, le fait que la République s'est enfin installée après près d'un siècle d'incertitude politique. Voilà, la République s'est installée, le développement économique et social est une réalité. Nous avons parlé de la médecine, de Pasteur et des peintres, etc. Donc il y a, et du reste, dans bien des manuels scolaires, on peut observer que on considère cette période comme une grande époque. Certains ont pu y voir même une sorte d'âge d'or de la République, de la Troisième République. Et en même temps, quand on lit les écrivains, les éditorialistes, les publicistes...
La société paraît rongée d'inquiétude.
Complètement.
La démographie, l'économie qui serait en berne, nous sommes à la fin d'un cycle B, pour reprendre la formule de l'économiste russe Kondratiev, les cycles B, les cycles A, des cycles économiques de une trentaine d'années... qui va s'achever précisément à ce moment-là. Le malaise agricole, l'immigration, le conflit entre l'Église catholique et les républicains, c'est une sorte de résumé de ce que nous allons avoir évoqué.
Oui, alors il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a des phénomènes de déclin. Vous les avez énumérés, en particulier dans l'économie. La France est prise dans ce cycle de dépression économique. Elle est l'objet d'une concurrence étrangère désormais redoutable dans son agriculture, concurrence des blés étrangers, dans son industrie. Et il y a un chômage dont les chiffres deviennent de plus en plus inquiétants. C'est une réalité. Réalité également la baisse de la démographie, même si les contemporains sont beaucoup moins attentifs que de nos jours aux aspects de la population, au taux de natalité, taux de fécondité. Mais il n'empêche, on voit bien que la France perd de sa vigueur de population, de sa vigueur de fécondité. Elle est obligée d'accepter une immigration importante, en particulier qui vient d'Italie, et que cette immigration pose des problèmes puisqu'elle est dénoncée. Elle est dénoncée par des travailleurs et par des journalistes qui estiment que cette main-d'œuvre étrangère fait baisser les salaires en France ou tout simplement prennent le travail des Françaises eux-mêmes.
Et évidemment, les échos aujourd'hui sont assez frappants. Écoutez ce court extrait d'un livre qui s'appelle « L'invasion » de Louis Bertrand, qui est lu par Alain Rimoux dans « Frisson fin de siècle ». C'est une émission de Jean-Pierre Rioux, le 31 juillet 1990.
On voyait passer des individus à chevelure hirsute qui parlaient un langage barbare. Sicilien ou catalan, maigres bandits aux prunelles luisantes, enragés de misère et de fanatisme. Le flot sans cesse grossissant de l'invasion italienne augmentait dans des proportions alarmantes le nombre des meurs de faim.
C'est frappant, et il y a d'ailleurs à ce moment-là des émeutes qui provoquent des morts chez les Italiens à Aigues-Mortes, qui frappent beaucoup l'opinion dans les années 1890.
Effectivement, en 1893, se déroule ce qu'on a appelé la tuerie d'Aigues-Mortes, où l'on a vu un affrontement dans les marais salants, entre les ouvriers italiens et les ouvriers français, affrontement d'une rare violence, puisqu'il y a eu 8 ou 9 morts et des dizaines de blessés. Cela, si vous voulez, se réfère à des réalités que l'on peut observer, que l'on peut quantifier. Même il y a à l'époque en France 1 million d'étrangers. Et évidemment, on trouve que c'est insupportable.
Sur 39 millions à peu près.
Oui, à peu près. Mais il faut bien distinguer, disais-je, entre ces aspects de déclin dans différents domaines et la décadence.
Déclin et décadence, oui. Le départ est intéressant entre les deux formules.
Différentes. Le déclin est toujours déclin de la production agricole, du taux de natalité, etc. Décadence, alors là, on ne sait plus exactement ce que c'est, d'autant que ceux qui parlent de décadence, et Dieu sait si à cette époque, le mot est utilisé, répété par presque tous les écrivains, eh bien, ils ne voient pas la même chose dans ce mot, parce qu'ils se réfèrent à des aspects de la vie, de l'histoire, du temps, qui sont tout à fait contradictoires. Il y a, par exemple, le milieu catholique qui voit dans la décadence le fait de l'existence d'une république laïque, d'une école désormais qu'on appelle l'école sans Dieu, qui a été créée par Jules Ferry, le rétablissement du divorce, voilà autant...
1884, on est exactement dans votre période.
Toutes ces lois de la République ont provoqué un discours anti-républicain de la part des écrivains catholiques, du clergé, de la presse catholique. Ça, c'est une vision de la décadence qui tient par conséquent à la déchristianisation de la France, phénomène religieux. Mais des écrivains qui ne sont pas du tout croyants, et c'était le cas de Huysmans à l'époque, au moment où il publie À rebours en 1884, parle aussi de décadence, déteste leur siècle. Ce n'est pas à cause du recul de la religion, mais c'est parce que ils détestent le monde moderne. Ce sont des antimodernistes, dans la mesure où ils rejettent le matérialisme, le scientisme, le progrès industriel, l'urbanisation, tout cela qui a détruit une ancienne société dans laquelle les écrivains se trouvaient plus à leur aise, et en particulier parce que s'est instauré dans la France du moment, du siècle, le suffrage universel qui fait triompher le nombre, le quantitatif.
L'âge des foules, c'est une formule qui oui, fait florès à l'époque, avec notamment
exactement
les écrits de Gustave Le Bon.
Gustave Le Bon qui va écrire ce livre à succès, du reste, Psychologie des foules, qui montre bien, à travers précisément toutes les manifestations quantitatives, si je puis dire, les manifestations, les meetings, les rassemblements, qu'il y a un embarras, une gêne, une détestation de ceux qui, par esprit aristocratique, par culture de la rareté, culture de la qualité, rejette par conséquent cette nouvelle civilisation annoncée jadis par Tocqueville sous le terme de société démocratique.
Et en même temps, on voit la mythification du passé dans une large mesure au nom de l'éternelle sirène, c'était mieux avant.
L'âge d'or. Évidemment, pour les catholiques, il va de soi que l'âge d'or, c'était l'âge de la royauté, c'était l'âge de l'alliance du trône et de l'autel. Pour d'autres qui sont dans le rejet de la société industrielle, l'âge d'or, c'était l'âge patriarcal, l'âge du village, qui est aujourd'hui contaminé par l'esprit de la ville. Oui, il y a toujours dans le terme de décadence une référence à son contraire, qui est un âge d'or, un passé qui est idéalisé et souvent qui est pur fantasme.
Avec, en même temps, concomitamment, cette obsession d'une dégénérescence de la race, c'est le titre du livre d'un essayiste allemand, Max Nordau, qui est traduit en 1894. On y lit par exemple, cet extrait est significatif, « Les psychopathies sexuelles de toute nature sont devenues si générales et si impérieuses que les mœurs et les lois ont dû s'adapter à elles. Elles paraissent déjà dans les modes. Les masochistes ou passivistes qui forment la majorité des hommes se revêtent d'un costume qui rappelle, par la couleur et la coupe, le costume féminin. Les femmes qui veulent plaire aux hommes de cette espèce portent des vêtements d'hommes, un monocle, des bottes à éperons et une cravache, et ne se montrent dans la rue qu'un gros cigare à la bouche. Pudeur et réfrénement sont des superstitions mortes du passé qui n'apparaissent plus que comme des atavismes et chez les habitants des villages reculés. »
Oui, alors nous touchons là à un des grands thèmes de la décadence, à savoir l'émancipation des femmes, redoutée, redoutable, et au-delà de l'émancipation, la virilisation des femmes et inversement la féminisation des hommes.
C'est le moment où les préfets interdisent aux femmes de porter des vêtements d'hommes, sauf pour faire de la bicyclette.
Exactement. Donc il y a cette peur qui repose sur quoi, à vrai dire, mais c'est la peur des tenants d'une société, disons-le, phallocratique, qui voit que dans certains domaines, les femmes acquièrent des avancées, des postes, prennent des emplois parfois qui n'appartenaient qu'aux hommes auparavant, et surtout il y a la scolarisation. Depuis le Second Empire, on a ouvert les lycées aux jeunes filles.
Est-ce que vous pensez qu'on retrouverait Michel Vinocq à bas bruit cette inquiétude dans notre société d'aujourd'hui ?
Je dirais qu'il y a la controverse sur le genre. Et le mot n'existait pas à l'époque dans le sens que nous l'employons aujourd'hui. Mais c'est très caractéristique parce que, justement, on pense que les femmes se transforment, sont en train de se transformer, et que les hommes, eux aussi, de sorte que l'androgyne est un des thèmes de la littérature de l'époque, cette idée d'une fusion, d'une égalité totale, d'une non-séparation entre le masculin et le féminin. Et de ce point de vue, nous avons un écrivain qui est tout à fait symptomatique de cet état d'esprit, c'est Rachilde. Rachilde, qui était l'épouse, qui allait devenir l'épouse de Valette, le fondateur du Mercure de France, et qui a été une romancière très lue de son temps.
Jusqu'à sa mort farouchement hostile, par exemple, au suffrage des femmes.
Ah, tout à fait. Elle était, on pourrait dire, un peu misogyne.
Elle a publié un livre contre le suffrage des femmes.
Oui. Donc, elle n'avait rien d'une avant-gardiste, hein, de ce point de vue. Mais tous ses livres montrent précisément, démontre cette espèce de trouble qui existe entre les genres. Et le premier de ces livres que préface Maurice Barrès...
Monsieur Vénus.
Eh oui, s'intitule Monsieur Vénus, en attendant un autre livre qui s'appellera La Marquise de Sade. Vous voyez, par conséquent, et dans cet ouvrage, on voit effectivement la femme captatrice, quelque peu vampirique, n'est-ce pas, qui va dominer complètement le jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Ou plus exactement, il dit « Je ne suis pas amoureux d'un homme, je suis amoureux d'une beauté ».
Alors en face, on ne s'étonne pas que chez les hommes, il y ait le sentiment d'une décadence d'Eros. Alors on se précipite dans le stupre et la fornication, ou au contraire, on dans une sorte d'idéalisation de la pureté. Et vous évoquez tout à l'heure Joris Karl Huysmans. Il faut l'entendre, car c'est un des personnages, un des auteurs les plus marquants de l'époque, qui a contribué à lui donner une tonalité. Joris Karl Huysmans a publié un livre qui s'appelle « À rebours », qui est presque une sorte de manifeste de cette littérature de la décadence. En voilà un extrait, dans les matinées de France Culture, de Hubert Juin, le 22 novembre 1984. Vous allez voir qu'il est question de quelques dévergondages sexuels.
Déjà, il rêvait à une thébaïde raffinée, à un désert confortable, à une arche immobile et tiède, où il se réfugierait loin de l'incessant déluge de la sottise humaine. Une seule passion, la femme, eût pu le retenir dans cet universel dédain qui le poignait, mais celle-là était elle aussi usée. Il avait touché au repas charnel avec un appétit d'homme quinteux, affecté de maladie, obsédé de fringales, et dont le palais s'émousse et se blase vite. Au temps où il compagnonnait avec les hobereaux, il avait participé à ces spacieux soupers où des femmes saoules se dégrafent au dessert et battent la table avec leurs têtes. Il avait aussi parcouru les coulisses, tâté des actrices et des chanteuses, subi, en sus de la bêtise innée des femmes, la délirante vanité des cabotines. Puis, il avait entretenu des filles déjà célèbres et contribué à la fortune de ces agences qui fournissent, moyennant salaire, des plaisirs contestables. Enfin, repu là de ce luxe similaire, de ces caresses identiques, il avait plongé dans les bas-fonds, espérant ravitailler ses désirs par le contraste, pensant stimuler ses sens assoupis par l'excitante malpropreté de la misère. Quoi qu'il tentât, un immense ennui l'opprimait. Il s'acharna, recourut aux périlleuses caresses des virtuoses, mais alors sa santé faiblit et son système nerveux s'exacerba. La nuque devenait déjà sensible et la main remuait, droite encore lorsqu'elle saisissait un objet lourd, capricante et penchée, quand elle tenait quelque chose de léger tel qu'un petit verre. Les médecins consultés l'effrayèrent. Il était temps d'enrayer cette vie, de renoncer à ces manœuvres qui alitaient ses forces. Il demeura pendant quelque temps tranquille, mais bientôt le cervelet s'exalta, appela de nouveau aux armes. De même que ces gamines qui, sous le coup de la puberté, s'affament de mets altérés ou abjectes, il en vint à rêver, à pratiquer les amours exceptionnelles, les joies déviées. Alors ce fut la fin. Comme satisfait d'avoir tout épuisé, comme fourbu de fatigue, ses sens tombèrent en léthargie, l'impuissance fut proche.
Quel regard sur son temps et sur ce personnage. J'observe en passant, Michel Winock, que Houellebecq, dans son livre à grand succès, Soumission, décide que son héros fera sa thèse sur Huysmans, maudissant son temps.
Oui, ce n'est pas par hasard. Il est évident que Michel Houellebecq est un écrivain de la fin du 19e siècle, de ce point de vue-là. Et c'est très intéressant, évidemment, qu'il ait choisi comme personnage principal un universitaire qui prépare l'édition de la Pléiade sur Huysmans. Tout cela n'est pas fortuit.
On pourrait faire aussi un rapprochement avec Cioran, l'auteur du précis de décomposition, de l'inconvénient d'être né.
Alors, Cioran fait plutôt penser à Schopenhauer, n'est-ce pas? Puisque le philosophe allemand, comme le disait tout à l'heure Jules Romain, le philosophe allemand a écrit son œuvre avant la fin du 19e siècle. Il était mort, mais il a été traduit dans les années 1880. Et il est devenu une référence clé pour tous les auteurs que je cite, ou la plupart.
Même André Gide sera été, je crois, ma plus grande influence.
Oui. Même Gide. Et donc ça, c'est remarquable. Alors, il faudrait associer à Schopenhauer Wagner, comme le faisait tout à l'heure Jules Romain.
Il disait « Tout dans la vie indique que le bonheur est voué à l'échec ou à être dévoilé comme illusion, Schopenhauer. La vie se présente comme une continuelle supercherie en détail et en gros. »
C'est un pessimisme radical. Et c'est ce qui plaît précisément à nos écrivains français. Alors, le passage que nous avons de Huysmans, que nous avons entendu, révèle l'obsession de la sexualité qui est bien de cette époque. Du reste, les raisons en sont multiples. Il y a d'abord une certaine liberté d'expression qui n'existait pas avant la République.
Depuis la loi de 1881.
Hein. Et oui.
Liberté de la presse et de l'édition.
Voilà, et désormais, les écrivains représentent ouvertement dans leurs romans le désir, la luxure, la jouissance, la volupté, le saphisme, les perversions. Bon, tout cela, on les trouve dans les œuvres de Péladan, Octave Mirbeau, Jean Lorrain, Rachilde, Pierre-Louis. Oui, il y a vraiment, du reste... Elisabeth Rudinsko disait dans sa biographie de Freud, elle disait que la sexualité était devenue la grande question du siècle. Elle pensait évidemment à Freud, bien sûr, mais aussi à Charcot. Charcot et ses travaux sur l'hystérie. Charcot que Freud vient visiter à Paris. Donc
l'obsession de l'onanisme aussi, l'obsession de
ce qu'on appelle les perversions, c'est-à-dire l'onanisme, l'homosexualité. Et puis, vous avez entendu quelques notations dans le passage de Huysmans tout à l'heure, la pédophilie. Et du côté de la peur, il y a la peur de la syphilis. Et tous ces écrivains en sont obsédés et très souvent atteints eux-mêmes, parce qu'ils fréquentent les maisons closes la plupart, et que cette maladie incurable, oui incurable on peut dire, jusqu'aux antibiotiques, donc représente un spectre affreux, n'est-ce pas, de la sexualité.
Il y a une pièce qui a un grand succès, c'est celle qui s'appelle les avariés, de
oui.
Brieux, qui oui. est d'abord interdite en 1902 et finalement représentée en Belgique, puis en France, et qui est entièrement consacrée au thème du bourgeois avarié, du bourgeois syphilitique, qui va répandre son mal alentour.
Absolument. Alors cette sexualité ou cette obsession de la sexualité, on la retrouve aussi dans la peinture, avec les tableaux de Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, mais tout particulièrement deux peintres qui représentent cette obsession, c'est Félicien Rops, qui est belge.
Le père de Daniel Rops, qui a passé sa vie à rattraper ce que son père avait pu exprimer voilà. de sulfureux en écrivant beaucoup d'histoires de la chrétienté.
Voilà. Et alors, Huysmans disait de lui, il a peint le surnaturel de la perversité, l'au-delà du mal, mais surtout le grand peintre.
Salomé, Gustave Moreau.
Oui, voilà. Alors ça, c'est le grand peintre pour les décadents, pour les écrivains de la décadence. Et là encore, Des Esseintes, dans le à rebours, le héros de Huysmans, Des Esseintes, parle longuement de Gustave Moreau, parle de Salomé comme la déité symbolique de l'indestructible luxure, la beauté maudite, la bête monstrueuse. Et Jean Lorrain disait de Salomé, peinte par Moreau, elle a envoûté tout son siècle. Et pourquoi ? Parce que c'est l'alliance de la lubricité et de la mort. Et cela, ça fascine par conséquent tous ces écrivains. Salomé, c'est à la fois l'emblème de la femme vierge, mais aussi de la femme lubrique. Et par conséquent,
il obtient en dansant du roi Hérode de pouvoir avoir la tête de Jean-Baptiste.
Voilà.
On montre qu'on lui apporte sur un plat.
Alors, cette histoire a été très bien racontée déjà par Flaubert dans sa nouvelle qui s'appelle Hérodias, dans les trois contes.
Je rappelle que nous vous devons une très belle biographie de Flaubert, Michel Vinocq.
Voilà, donc, après Flaubert, n'est-ce pas, Moreau a peint à plusieurs reprises Salomé, qui devient un de ses personnages tout à fait référents de la décadence.
Et puis, il y a Léon Blois, que nous n'avons pas encore évoqué en détail, et qui est un personnage très important dans la sensibilité du moment pour illustrer cette histoire de la décadence, des angoisses de la décadence auxquelles nous consacrons notre émission ce matin. Léon Blois, qui est l'auteur des fameux propos d'un entrepreneur de démolition en 1884, et puis son premier roman, qu'il a grand-peine à faire paraître, Le Désespéré.
Oui, Léon Blois a été une sorte d'écrivain maudit. Maudit parce que lui-même, je dirais, tendait des perches pour être maudit en raison de sa férocité de polémiste, de pamphlétaire. Peu de gens avaient grâce à ses yeux. Il avait été converti au catholicisme par Barbet d'Aurevilly, qui est le grand écrivain de l'époque, qui va mourir en 89, auquel Léon Blois voue un véritable culte. Alors, ce catholicisme qu'il défend, c'est un catholicisme véritablement intégriste.
Il parle de la Saint-Barthélemy comme d'un acte de légitime défense.
Voilà, voilà. Alors, c'est un être excessif. Mais en même temps, quoique intégriste, il ne faudrait pas le classer politiquement à l'extrême droite, parce que, au contraire, détestant les puissants, les pouvoirs en place, y compris la hiérarchie catholique, défendant la pauvreté. Il apparaît très souvent sympathique aux yeux, on peut dire, des anarchistes, aux yeux des révolutionnaires, parce que lui-même écrit des propos enflammés, par exemple contre les colonies, la colonisation. Léon Blois, donc converti par Barbet d'Aurevilly au catholicisme, a été pendant toute sa vie marqué par l'apparition de la Vierge à la Salette en 1846. À vrai dire, le message de la Vierge Marie en 1846 n'a été véritablement connu, officialisé, qu'en 1879, donc au début de l'époque qui nous intéresse. Alors que disait la Vierge aux deux petits bergers qui étaient là? Elle disait que la France était en état de péché mortel et que si les Français continuaient à manquer à leur devoir envers Dieu, d'aller à la messe le dimanche, etc., allaient se produire des catastrophes. Et que ces catastrophes, c'est-à-dire des guerres civiles, des catastrophes naturelles, des épidémies, la famine, ces catastrophes annoncerait en fait, après coup, le retour de Jésus-Christ, du Christ en gloire.
C'est l'éternel retour de l'Antéchrist, de l'Apocalypse, voilà, qu'on avait déjà connu, par exemple, au moment des guerres de religion.
Et au Moyen-Âge, puisque cette idée apocalyptique, l'idée de la parousie, c'est cette idée qu'il y aura une guerre, un affrontement impitoyable entre les forces du Christ et l'Antéchrist, et qui devrait se terminer par le retour triomphant, par conséquent, soit de l'Esprit Saint, soit de Jésus-Christ.
C'est une des deux parousies du temps, puisqu'il y a aussi en face la parousie sociale, l'attente de la Révolution, qui est une autre composante de l'angoisse de ces écrivains, le spectre rouge.
Oui.
Écoutons donc cet extrait de Germinal de Zola, 1885, lu par Roger Blin, dans l'analyse spectrale de l'Occident de Pierre Cipriot. On est le 12 novembre 1966. Il s'y trouve ramassé tous les motifs que peut avoir la bourgeoisie, en particulier le monde des écrivains, de redouter l'émergence de la révolution sociale.
Le roulement de tonnerre approchait. La terre fut ébranlée. Les femmes avaient paru. Près d'un millier de femmes, aux cheveux épars, dépeignées par la course, aux guenilles montrant la peau nue, des nudités de femelles lasses d'enfanter les mœurs de faim. Quelques-unes tenaient leurs petits entre les bras, le soulevaient, l'agitaient, ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance. D'autres, plus jeunes, avec des gorges gonflées de guerrières, brandissaient des bâtons, tandis que les vieilles, affreuses, hurlaient si fort que les cordes de leurs cous décharnés semblaient se rompre. Et les hommes déboulèrent ensuite, 2000 furieux, des galibots, des haveurs, des raccommodeurs, une masse compacte qui roulait d'un seul bloc, serrée, confondue, au point qu'on ne distinguait ni les culottes déteintes, ni les tricots de laine en loques, effacés dans la même uniformité terreuse. Les yeux brûlaient. On voyait seulement les trous des bouches noires chantant la Marseillaise, dont les strophes se perdaient en un mugissement confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, portée toute droite, et cette hache unique, qui était comme l'étendard de la bande, avait dans le ciel clair le profil aigu d'un couperet de guillotine. « Quels visages atroces !» balbutia Madame Hennebeau. Négrel dit entre ses dents, « Le diable m'emporte si j'en reconnais un seul. D'où sortent-ils donc ces bandits-là » C'était la vision rouge de la Révolution qui les emporterait tous, fatalement, par une soirée sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins, et il ruisselerait du sang des bourgeois, il promènerait les têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés, les femmes hurleraient, les hommes auraient ses mâchoires de loup, ouvertes pour mordre. Oui, ce serait les mêmes guenilles, le même tonnerre de gros sabots, la même cohue effroyable, de peau sale, d'haleine empestée, balayant le vieux monde sous leur poussée débordante de barbares. Les incendies flamberaient, on ne laisserait pas debout une pierre des villes, on retournerait à la vie sauvage dans les bois, après le grand rut, la grande ripaille, où les pauvres en une nuit efflanqueraient les femmes et videraient les caves des riches. Il n'y aurait plus rien, plus un sou des fortunes, plus un titre des situations acquises, jusqu'au jour où une nouvelle terre repousserait peut-être. Oui, c'était ces choses qui passaient sur la route, comme une force de la nature, et ils en recevaient le vent terrible au visage.
Le grand Ruth, la grande Ripaille, voilà ramasser tous les éléments d'une angoisse sociale.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est de montrer effectivement les deux parousies, la parousie révolutionnaire évoquée dans Germinal par Émile Zola, et la parousie que nous évoquions auparavant, catholique. Donc deux moments de crise terribles, deux moments épouvantables, atroces, mais qui, dans un cas comme dans l'autre, devaient s'achever par l'avènement, alors le retour de la foi, le retour de Jésus-Christ d'un côté, et de l'autre, la société nouvelle, fondée par conséquent sur l'espérance socialiste.
Vous débusqueriez, Michel Vinocq, des rebonds de ces deux angoisses et de parousies aussi dans notre vie actuelle ?
Écoutez, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans diverses publications, dans beaucoup de livres, dans un certain nombre de livres, cette idée de la décadence, en tout cas, de la fin du monde occidental, de la civilisation occidentale. Songez par exemple au titre de Michel Onfray qui s'appelle « Décadence » et qui annonce la fin de la civilisation judéo-chrétienne. Donc oui, il y a des correspondances, quoique, il faut l'avouer, dans le domaine du socialisme, la parousie révolutionnaire soit au plus bas de nos jours. Mais il reste tout de même la grande peur des écologistes, la grande peur d'un monde qui est en train de se suicider en refusant de prendre les décisions qu'il faut à la fois contre le réchauffement climatique et contre toutes les causes de pollution.
Il y avait déjà des inquiétudes pré-écologiques. Je vois dans le journal de Edmond Goncourt cette exclamation « L'industrie, oh l'industrie, ici, en haut de cette merveilleuse propriété, il y a une papeterie dont les déjections font périr tous les poissons de la rivière. En bas, il y a une bleuterie, j'imagine que c'est une teinturerie, dont les exhalaisons de soufre font peu à peu périr tous les arbres de la forêt qui l'avoisinent. Avant 100 ans, l'industrie aura tué la nature en France. »
Voilà bien une correspondance, n'est-ce pas, évidente. La peur de l'industrialisation est commune à beaucoup parce qu'elle est destructrice d'un monde ancien, destructrice d'un monde rural, il faut bien le dire. Et on déplore dans beaucoup de livres et de publications cette espèce de suicide collectif, cette fuite en avant vers un progrès dénoncé comme précisément la fin d'un monde.
Les apprentis sorciers qui ont lancé un mouvement qu'ils ne maîtriseront plus. Une des manières qu'à l'époque, du côté de nos écrivains, de tâcher de dépasser l'esprit de décadence, c'est le nationalisme qu'on voit émerger. Là aussi, il y a, on peut évoquer des échos aujourd'hui, c'est-à-dire l'inquiétude de ce qu'on appelle le cosmopolitisme.
Certainement. Alors le mot n'existe pas encore véritablement, il sera lancé, le mot nationalisme, qu'avec l'affaire Dreyfus, mais on en voit déjà l'ébauche dans le mouvement boulangiste. C'est à la fois une revendication identitaire, un esprit de décadence, puisque depuis la guerre et la défaite de 70-71, la France a besoin de se redresser. C'est aussi une défense des ouvriers contre la main-d'œuvre étrangère, concurrente. Et Maurice Barrès, dans sa campagne électorale de 89, va écrire plusieurs articles et réunir en brochure, précisément.
Il est élu député de Nancy.
Oui. Tout un discours xénophobe.
On dit cosmopolitisme là où nous dirions plutôt mondialisation.
Oui, si vous voulez, c'est le mot de l'époque, cosmopolitisme.
C'est Barrès qui lance le mot de nationaliste dans un article de juillet 92 où il parle de la querelle des nationalistes et des cosmopolites.
Oui, mais c'est un article qui se référait à la littérature. On ne l'employait pas encore en politique, véritablement. Mais c'est lui qui va être le représentant, en tout cas, le plus distingué, si l'on peut dire, de la pensée nationaliste qui va, par conséquent, triompher pendant quelque temps sous l'affaire Dreyfus.
Il y a encore un aspect de cette angoisse, de ce pessimisme universellement répandu dans une grande partie du monde littéraire, c'est le refus des conséquences architecturales de l'industrialisation. Et la Tour Eiffel est une sorte de symbole de tout ce qu'on peut détester. Écoutons cet extrait de la lettre ouverte de protestation publiée dans le journal Le Temps, le journal de la bourgeoisie installée, le 14 février 1887. C'est Claude Piéplus qui lit ce texte dans les après-midi de France Culture le 9 mars 1979. Écoutons-le.
Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom de l'art et de l'histoire français menacé, contre l'érection, en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisée du nom de Tour de Babel. Sans tomber dans l'exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Et de tous les coins de l'univers, Paris attire les curiosités et les admirations. Allons-nous donc laisser profaner tout cela? La ville de Paris va-t-elle donc s'associer plus longtemps au baroque, aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines, pour s'en les dire irréparablement et se déshonorer? Car la Tour Eiffel, c'est, n'en doutez pas, le déshonneur de Paris. Chacun le dit, chacun s'en afflige profondément, et nous ne sommes qu'un faible écho de l'opinion universelle si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les étrangers viendront visiter notre exposition, ils s'écrieront étonnés, quoi ? C'est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ? Ils auront raison de se moquer de nous, parce que le Paris des gothiques sublimes, le Paris de Jean Goujon, de Germain Pilon, de Puget, de Rude, de Barry, etc., sera devenu le Paris de M. Eiffel.
L'exposition, c'est celle de 1889, Michel Vinocq.
Oui, qui célèbre le centenaire de la Révolution française. Et on pourra assister, du reste, à un antagonisme entre les défenseurs de la Révolution, les républicains, et une grande partie des Français, enfin en tout cas de l'élite française, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, du clergé, qui vont maudire encore une fois la Révolution. Comme Monseigneur Frépel va écrire
l'évêque d'Angers,
écrit un opuscule qui obtient un très grand succès, où il dénonce de fond en comble l'œuvre révolutionnaire. Vous voyez, nous sommes encore dans une France complètement divisée, qui n'est pas réconciliée par la République.
L'idée de progrès étant évidemment du côté de la République et une idée de progrès incarnée par cette Tour Eiffel, le refus de celle-ci, l'affirmation étrange aujourd'hui que les touristes détesteront cette horreur, ça évoque un peu déjà les protestations contre la pyramide de Peille quand François Mitterrand l'a installée dans la cour du Louvre.
Oui, et puis avant lui, Beaubourg, rappelez-vous le déchaînement contre Beaubourg. Il y a aussi cette inquiétude de la modernité industrielle aujourd'hui à propos de la révolution numérique, n'est-ce pas, cette crainte que les hommes, l'humanité, va être remplacée par des robots. Ça, c'est une crainte que l'on perçoit, en d'autres termes, à cette époque où l'on pense que, précisément, l'électricité, le fer, le triomphe, n'est-ce pas, qu'on a appelé plus tard de la seconde révolution industrielle, est en train de détruire une civilisation.
Il y a aussi l'hostilité aux banques qui se retrouve assez fréquemment aujourd'hui, en particulier quand il s'agit de la banque juive.
Oui, alors en 1882, on assiste au krach d'une banque qui est tenue par des catholiques et on va voir se déchaîner un courant antisémite en accusant les juifs précisément d'avoir voulu la ruine de cette banque. Ce sont les années 1880 qui voient effectivement fleurir en France, si on peut dire fleurir, ce courant antisémite dont le grand prêtre s'appelle Édouard Drumont, qui obtient un succès considérable en 1886 avec son livre « La France juive ». Et un tel succès qu'il a même les moyens désormais de créer un journal quotidien, « La Libre Parole ». Donc, ce sont les années de la véritable naissance en France de l'antisémitisme. Bien sûr, la judéophobie existait, l'antijudaïsme pouvait exister, mais elle n'avait pas cette force, je dirais, collective qu'elle prend, et notamment parmi les lecteurs de Drumont, associés aux lecteurs de la Croix, puisque les catholiques, au fond, trouvent une explication à leur malheur dans la volonté des juifs de détruire le christianisme en France, en s'associant notamment aux francs-maçons. Il y a désormais...
Et aux protestants.
Et aux protestants.
Puisque la banque protestante s'épanouit aussi à côté de la banque juive.
Voilà l'anti-France qui est en train de se dessiner, par conséquent, le protestantisme, le judaïsme, les francs-maçons.
Toutes les haines de Charles Maurras.
Les métèques, c'est-à-dire les émigrés.
Les quatre États.
Les quatre États confédérés. Mais là, nous sommes un petit peu en avance, puisque c'est Maurras qui en fera la théorie. Mais les éléments de cette théorie se mettent en place à ce moment-là.
Toutes ces forces, ces évolutions, ces sensibilités que nous venons, Michel Vinocq, d'évoquer à propos de l'esprit de décadence, on peut en retrouver une concentration à propos d'un fait divers qui a beaucoup marqué l'époque, auquel je voudrais que nous consacrions les dernières minutes de notre conversation, je veux dire l'incendie du bazar de la Charité, le 4 mai 1897. De quoi s'agit-il ?
Tous les ans était organisé le bazar de la Charité, c'est-à-dire une espèce de kermesse, une réunion mondaine aussi, il faut bien le dire, où la haute société se rassemblait sur un terrain vague où l'on a installé des tentes.
Près de la rue Jean Goujon.
Rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement de Paris. Ce jour-là, 4 mai 1897, se produit un événement catastrophique, un incendie qui est dû à l'éclatement d'une lampe de projection cinématographique. Il faut dire que le cinéma a été inventé 2 ans plus tôt. On a invité, par conséquent, les visiteurs du Bazar de la Charité à venir assister à une séance de cinéma. Et puis, finalement, c'est un désastre, puisque quand on fait le compte, il y a plus de 100 morts, il y a des dizaines de blessés. Et ce fait divers qui marque profondément les mentalités de cette fin de siècle apparaît, oui, comme une sorte de début d'apocalypse que l'on avait prophétisé, et la presse va se déchaîner sur des positions du reste contradictoires à ce propos.
Eh bien, écoutons le récit de 2 vieilles dames qui, beaucoup plus tard, racontent cet épisode dont elles ont été l'une et l'autre les témoins.
À l'époque du bazar de la Charité, j'étais couturière dans une des plus grandes maisons de couture de la rue de la Paix. Et nous avions fait des très belles choses pour ce bazar de la Charité.
Et alors,
nous avons perdu beaucoup de clientes ce jour-là.
Mais vous avez appris comment l'incendie ?
Vers 4 heures de l'après-midi, les pompes passaient à toute vitesse, de tous les côtés, dans la rue de la Paix. Alors il y a un livreur qui a dit « c'est le bazar de la Charité qui flambe ».
Et vous êtes allé voir ?
Vers 8 heures, alors nous sommes allés voir. Alors, ça, c'était terrible. Toutes les personnes qui avaient perdu quelqu'un en avaient donc mis de chaque côté du bazar, dans tous les endroits aux alentours, des blessés que l'on pouvait un peu soigner. Alors, on voyait des messieurs, des dames qui allaient chercher « Pardon, madame, vous n'avez pas une vieille dame âgée ?»« Non, nous n'avons que des jeunes filles. » Elles repartaient en pleurant. Enfin, tout le monde pleurait de ce moment-là. Mais nous avons eu une cliente qui a échappé de ça.
Est-ce qu'elle a raconté qu'il y avait eu une espèce de lutte et que certains hommes avaient...
Le baron Macco. Ça a été dit dans les journaux qu'avec sa canne, il a tapé de droite et de gauche, il s'est frayé un passage et il s'est sauvé. Parce qu'à la porte, il y avait une montagne de cadavres, les unes sur les autres, les malheureuses, qui n'étaient pas brûlées, qui ont été étouffées.
Eh bien, j'ai été au bazar de la Charité, accompagnant une dame, Madame Legrand, qui n'a même pas été identifiée, qui a été brûlée complètement. Nous sommes arrivés à 4h15 à peu près. Et nous devions aller à cette fameuse représentation de cinématographe, ce qui était une curiosité à l'époque. Et j'entends
Boum! Et alors je lève le nez et je vois des flammes, mais immédiates. Et prenant, vous savez, une vitesse extraordinaire. Et moi, j'ai reçu, sur ma Charlotte, j'étais habillée en broderie anglaise, j'ai reçu une goutte enflammée. Cette goutte enflammée a glissé sur la Charlotte, m'a enflammé les cheveux que je portais longs. La porte d'entrée, dont je n'étais pas très éloignée, était entrouverte. J'ai eu la force de m'arracher au bras de Madame Legrand et je suis sortie une des premières en flammes. En face de la rue Jean-Goujon, il y avait des palefreniers, des... Il y a un de ces braves hommes qui m'a éteint avec ses mains. J'ai vu les palefreniers en question sortir une grosse voiture et donner des coups dans les murs qui, naturellement, ne laissait sortir personne. Les gens étaient écrasés derrière la porte. J'entendais crier. Et alors, ces gens sont arrivés à faire une brèche dans le mur. Et comme ça, il y a eu des gens de sauvés.
Ces témoignages sont empruntés à une émission de André Gillois, qui lui-même a vécu centenaire. Mais il n'était pas encore le 2 mai 1958, quand il faisait ses entretiens sur l'incendie du bazar de la Charité. L'émission s'appelait « Soyez témoins ».
Oui, c'est très intéressant de voir évoquer cet incendie qui a été interprété par beaucoup comme un signe, là encore, un signe catastrophique du dépérissement de la France.
Oui, dans votre livre, Michel Vinocq, Décadence fin de siècle, vous donnez une revue de presse passionnante qui donne à connaître les réactions très diverses des différents segments de la société.
Effectivement. On s'est divisé à ce propos pour expliquer ce qui s'était passé. Il y a eu notamment une cérémonie à Notre-Dame où le révérend père Olivier a pu parler du châtiment de Dieu.
On retrouve cela.
Alors, il disait notamment « La France a mérité ce châtiment par un nouvel abandon de ses traditions. Au lieu de marcher à la tête de la civilisation chrétienne, elle a consenti à suivre en servante ou en esclave des doctrines aussi étrangères à son génie qu'à son baptême. La France ayant pris le mauvais chemin de l'apostasie, l'ange exterminateur a passé. » Alors voilà, une interprétation, là encore, apocalyptique, religieuse de l'événement. Et en particulier, il insiste sur la cause matérielle de l'incendie, qui est due au cinéma, invention diabolique, qui montre à quel point, par conséquent, nous sommes entrés dans une période catastrophique.
Et en face, naturellement, un homme comme Clémenceau dénonce l'usage que l'État et l'Église font de l'affreux cynisme dans l'intérêt de l'esprit de classe. Vous m'autoriserez à donner cet extrait de sa réaction, de journaliste. Vous qui en avez été le biographe, vous ne me l'interdirez pas. « Voyez, disait-il, ces jeunes gens du grand monde qui frappent à coups de canne, à coups de bottes, les femmes affolées pour s'esquiver lâchement du péril. Voyez ces domestiques sauveteurs. Voyez ces ouvriers venus de hasard qui exposent héroïquement leur vie. Voyez le plombier Piquet qui sauve 20 créatures humaines et qui, tout brûlé, rentre à l'atelier sans rien dire. Méditez là-dessus si vous pouvez, dernier représentant des castes dégénérées et gouvernant bourgeois de l'esprit de classe. »
Et d'une manière générale, les républicains, les journalistes républicains vont insister sur le courage des sauveteurs qui appartiennent la plupart du temps aux classes laborieuses, aux travailleurs.
Ce sont les palefreniers qui
évoquaient par exemple, qui étaient à la porte. On va exalter par conséquent ces gens du peuple par rapport à ces hommes si lâches, évoqués par le témoin tout à l'heure, qui se frayaient un chemin, un coup de canne, pour sortir.
Un chroniqueur parle de un azincourt féminin.
Une belle expression. Là, c'est l'aspect guerre des sexes, n'est-ce pas, qui fusionne avec la guerre des classes. C'est une interprétation sur laquelle on insiste beaucoup. Il y a une lâcheté de ces aristocrates, de ces grands bourgeois qui martyrisent leurs femmes pour sauver leur peau. Bon, il y a tout ce discours-là qui est étonnant. Et puis tout cela est enveloppé par des descriptions macabres et où l'on voit le côté morbide de cette fin de siècle. Jamais aujourd'hui, je crois, on s'attarderait sur les descriptions des squelettes calcinés, sur la recherche par les familles de ceux et de celles qui ont été brûlés et dont on examine les mâchoires, dont on examine les doigts pour voir s'il y a une alliance encore, etc. Les journaux s'en donnent, on pourrait dire, à cœur joie dans cette description-là. À propos du bazar de la Charité, il y a, comme toujours, Léon Blois qui fait exception et pour lequel la compassion n'est pas de mise. Il écrit à un de ses amis « J'espère ne pas vous scandaliser en vous disant qu'à la lecture des premières nouvelles de cet événement épouvantable, j'ai eu la sensation nette et délicieuse d'un poids immense dont on aurait délivré mon cœur. Le petit nombre de victimes, il est vrai, limitait ma joie. Enfin, me disais-je tout de même, enfin, enfin, voilà donc un commencement de justice. »
On trouve même l'antisémitisme qui ressurgit lorsque le baron Hirsch, qui est juif, a donné beaucoup d'argent.
Oui, alors bizarrement, le Figaro, qui a lancé une souscription, a annoncé qu'il y avait eu un don particulièrement important de la part de la baronne Hirsch, qui était juive. Et puis, celle-ci, comme ce n'était pas vrai, celle-ci a démenti que ce n'était pas elle qui avait fait ce don-là. Et la presse antisémite... celle de Drumont en particulier, s'est emparée de cet aveu pour dire, évidemment, n'est-ce pas, les Juifs sont bien incapables de cette générosité, etc. Alors, si vous voulez, j'ai tenté dans ce chapitre-là de montrer à quel point l'incendie du bazar de la Charité, qui pourrait passer pour un fait divers comme un autre, si on veut, a pu résumer, en raison des commentaires, des exégèses, des polémique qu'il a suscité, comment ce fait divers est une sorte de résumé de tout cet esprit fin de siècle.
Eh bien, je renvoie enfin à Paul Morand qui a écrit une nouvelle magnifique où il évoque le drame de cet incendie du bazar de la Charité. Merci Michel Vinocq. Je rappelle le titre de votre livre sur lequel très largement nous avons fondé notre conversation, « Décadence fin de siècle » paru tout récemment chez Gallimard en 2017. Nous avons évoqué certaines de vos biographies. Je rappelle que votre « Clémenceau » paru chez Perrin en 2007, qui vient d'être réédité, une très belle édition cartonnée à l'occasion du centenaire de l'accession de Clémenceau au pouvoir en 1917, une accession au pouvoir qui va être très largement évoquée et célébrée dans les mois qui viennent. Vous avez également donné un Flaubert chez Gallimard, dans la collection des biographies, paru en 2013 et réédité récemment en folio. Jean-Pierre Rigaud avait donné des chroniques d'une fin de siècle, France 1889-1900, sur cette même période et sur ce même thème dont nous avons parlé ce matin, qui était paru au Seuil en 1991. C'était en fait le recueil de chroniques qui avait été publié dans le journal Le Monde. Et nous donnerons d'autres informations bibliographiques nombreuses sur notre site. Vous le savez, vous pourrez y accéder aisément et vous pourrez également y trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons du voile dans l'histoire, du voile féminin. D'âge en âge, voiles proposés, voiles imposés. Avec Nicole Pellegrin, qui vient de proposer un livre sur ce thème. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux appui de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque semaine par Anne Kobilac, avec à la prise de son U2 Diego Aclopès, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Amélie Briand-Lejeune et Arnaud Plançon. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.